Bonjour, ici Félix Morin et vous écoutez Les longues entrevues. Ce mois-ci, j'ai eu la chance de m'entretenir avec la professeure de littérature à l'Université de Sherbrooke, Stéphane Martelly, autour de son livre « Mourir est beau » aux éditions du Norrois. Bonne écoute! Bonjour Stéphane Martelly.
Bonjour Félix.
Merci beaucoup de venir à cette émission pour ce très beau livre qui est « Mourir est beau » paru aux éditions Norrois tout récemment, au moment de l'entretien. Mais on sera en novembre au moment de la publication, donc ça va faire quand même quelques temps. Moi, j'ai vraiment aimé ce livre-là, mais avant de rentrer dans, je dirais, dans le creux du livre, j'aimerais parler avec toi de création littéraire un peu.
Oui.
Parce que tu enseignes la création littéraire
oui.
à l'université et il y a une... On dirait que j'imagine la création littéraire dans tout ce qui est direction de mémoire, dans tout ce qui est direction de thèse, mais c'est quelque chose qu'on dirait que j'imagine pas pour une classe. Tu sais, que 30 personnes dans la création qui ont chacun leurs projets, leurs objets, leurs ambitions, leur manière d'appréhender leur rapport à la littérature. Donc, je me demande comment on enseigne la création à des personnes justement qui ne veulent pas nécessairement créer la même chose.
Alors, mais écoute, c'est une question assez compliquée, en fait, à laquelle sûrement des gens différents répondraient très différemment.
Oui.
Mais pour moi, en fait, enseigner la création, c'est précisément pousser de plus en plus les gens vers eux-mêmes. Donc, même en contexte de classe, ça reste pour moi un travail qui fait émerger, qui favorise l'émergence des singularités.
Mmh.
Donc moi...
Donc c'est tu fais émerger 30 singularités à la fois.
Oui, ça me fascine et puis ça me passionne.
Oui, et comment on fait quand c'est justement, on va dire, cette singularité-là qui émerge et des fois très loin de nous? Parce que moi, je le vis comme professeur de cégep. Il y a des étudiants qui ont des approches pédagogiques en petite enfance qui ne sont pas du tout les miennes.
Oui.
Je dois les aider, les soutenir dans leur propre projet.
Oui.
Toi, comment tu fais en création justement quand tu vois que cette singularité-là, en fait... pour différentes raisons, va dévier beaucoup de ta conception, on va dire, de la littérature?
Mais en fait, c'est moi ce que je recherche. Et la question est presque à l'opposé. En fait, il faudrait presque la poser à l'opposé parce que...
J'adore.
Ce qui arrive, c'est que quand les étudiants arrivent, surtout les étudiants qui débutent première, deuxième année à l'université, quand ils arrivent en contexte de cours de création, il faut beaucoup travailler pour les pousser à se singulariser.
Dans le fond, ils veulent être aimés des autres, donc ils veulent se normaliser.
Oui, le système scolaire, malheureusement, les cadres les façonnent vraiment d'une manière assez précise.
Ou la note aussi.
Ils apprennent aussi à performer à l'intérieur de ce système, dans le but, effectivement, de se faire récompenser par une bonne note. Donc, tout le travail, et de plus en plus, en fait, et c'est presque un niveau... Je discutais avec des collègues de cette université, même d'autres universités, c'est de les pousser à abandonner ces réflexes de répondre aux attentes. Qui sont antithétiques à la création, en fait. Parce qu'il faut, pour pouvoir commencer vraiment à créer, partir vraiment de soi et puis essayer de trouver une singularité, quelque chose qui fait que c'est intéressant pour que la millième fois, on lise quelque chose sur l'amour, la dix millionième fois, on lise quelque chose sur la mort et que ça soit quand même intéressant et puis nouveau. Donc, il faut vraiment les pousser vers en fait, cette singularité. Et c'est un apprentissage de retrouver sa propre voie quand on a passé 12-15 années, au contraire, à se faire dire qu'il faut ressembler et qu'il faut rentrer dans des moules très précis.
Ça doit être fou pour le syndrome du bon élève, justement.
Ah oui, c'est la panique.
Ça doit... Non, mais je pense à des étudiants, des étudiantes ou à des collègues de classe que j'ai eus. Ça, c'est... Ce que tu viens de dire, c'est...
Oui, et puis apprivoiser l'échec. L'échec est un élément essentiel à la création.
Ah oui.
Oh, et si on n'échoue pas, on ne peut pas créer, vraiment.
Non, c'est ça. Il faut des fois se rendre compte qu'on est dans un cul-de-sac.
Oui, il faut s'en rendre compte. Et puis, il faut accepter aussi qu'on puisse être dans un cul-de-sac. Et puis savoir qu'on pourra se relever puis se retourner vers autre chose.
Non, c'est absolument important.
Oui, oui.
Tu es aussi une spécialiste de tout ce qu'on appelle la littérature et la marginalité.
Oui, okay. Je m'intéresse aux marginalités littéraires depuis très longtemps. Ça a commencé... c'est très vieux, cette affaire-là. En fait, j'ai pris un moment avant de me rendre compte que c'est ce qui m'intéressait.
Ah oui, tu pensais que c'était quoi avant?
Non, j'étais certaine que je travaillerais en poésie et je travaille encore en poésie. Oui, je suis spécialiste de poésie et je suis poète moi-même. Et j'ai travaillé il y a maintenant assez longtemps sur un poète haïtien... de l'époque qu'on avait appelée à l'époque contemporaine, c'est-à-dire la deuxième moitié du XXe siècle, qui était taxée d'hermétique.
Okay.
Alors moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que une œuvre qui était classée d'hermétique pouvait quand même me toucher et réveiller une émotion chez moi. Donc elle me communiquait quelque chose au-delà de son hermétisme. Et puis c'est ça qui me passionnait. J'ai toujours des questions très simples qui me conduisent à poser de plus en plus des projets plus complexes.
Mais les questions simples, c'est souvent c'est les fleuves qui irriguent des petites rivières. Tu sais, dans le sens que ces grandes questions simples-là, après on les précise, mais il faut les garder en tête.
Moi, ça, c'est toujours très, très simple au début. Et puis après, ça devient très, 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 très compliqué. Et donc, avec ce poète-là, j'ai passé mon temps à travailler là-dessus. C'était mon projet de maîtrise qui est devenu ensuite mon premier essai littéraire publié. Et j'ai commencé donc une carrière de chercheur très, très jeune.
Oui.
Et donc, voilà. Et puis, après avoir travaillé sur Magloire-Saint-Aude, pour le nommer, je me suis rendu compte que vraiment, c'était ces extrêmes qui me passionnaient. C'est-à-dire, jusqu'où peut-on interpréter? Quelles sont les limites de l'interprétation? Qu'est-ce qui se situe dans? Qu'est-ce qui est dehors?
Ouais.
Et donc, ça, c'est vraiment des choses qui ce sont des fils conducteurs qui existent dans mon travail jusqu'à aujourd'hui.
C'est intéressant, par un autre chemin. Moi, récemment, je lis beaucoup Patrick Boucheron, qui serait un peu mon rêve de grand entretien d'ailleurs, un historien français, je ne sais pas si tu connais. Il a fait un livre sur Saint-Ambroise de Milan qui s'appelle La Trace et l'Aura. Puis justement, il se pose la question jusqu'à quel point on peut interpréter la mémoire d'Ambroise comme historien.
Mm.
Justement, puis là, il retourne jusqu'à ce qui est ininterprétable.
Oui,
chez
ça.
Lui. Il s'est obligé de traverser 6 siècles.
Oui, c'est ça.
De ce qu'il dit au début.
J'ai traversé la centaine de pages très, très denses écrites pour Magloire-Saint-Aude. Et puis, c'était un univers aussi, tu
qu'est-ce
vois.
Qu'est-ce qu'on... Mais c'est...
Et puis, jusqu'où il est non seulement possible d'interpréter, mais jusqu'où... Et puis, c'est devenu un peu une question, tu vois, jusqu'où il est approprié d'interpréter.
Donc la question éthique.
La question éthique était déjà là, oui.
Donc,
à travers, en fait, la pensée d'Édouard Glissant, le grand philosophe martiniquais, qui parlait beaucoup de la notion d'opacité.
Oui, mais comme... moi, je viens de découvrir Édouard Glissant. Ah. Mais je le découvre vraiment de manière... à travers Patrick Chamoiseau, là, je suis en train de...
Oui, c'est ça. Donc... Qui était son disciple. Patrick Chamoiseau, c'était son disciple.
Mais je suis tombé
Et donc, oui, la question de l'opacité est devenue très centrale à ce que je fais. Oui.
Donc, c'est pour ça que vous intéressez aussi aux questions épistémologiques.
Oui.
C'est-à-dire justement aux questions de...
Oui, et puis ça, c'est encore plus vieux. C'est une passion un peu ancienne pour la littérature et la philosophie de manière concomitante. En fait, depuis très jeune, finalement, je m'intéresse beaucoup à la connaissance... Je m'intéresse beaucoup à l'imaginaire, à la création, mais aussi beaucoup aux questions, aux questions de sens.
OK.
Ouais, ouais.
Oui, juste puis à la ça, limite c'est... du sens.
Et puis, c'est devenu, avec moi, c'est toi de la limite du sens. Oui. Ah. Et puis, c'est une zone où j'ai découvert que je me sentais vraiment très bien.
Oh, pourquoi?
Oui, parce que ça me correspond.
C'est vraiment...
J'ai une chercheuse qui m'a dit à une époque que finalement, parce que mon essai sur Magloire-Saint-Aude s'intitule Le sujet opaque.
Oui.
Et puis, on était dans une grande discussion. Elle a dit, le sujet opaque, c'est peut-être même un peu toi. J'ai dit, ah, peut-être, je ne sais pas.
Ah, mais ça... Ça, c'est vraiment intéressant. Mais justement, les liens entre, on va dire, création littéraire et marginalité,
oui.
C'est quelque chose qui t'intéresse, justement, épistémologiquement, éthiquement parlant, c'est vraiment quelque chose
oui.
qui est important.
Oui.
Comment ces deux choses-là se nourrissent pour toi? Parce que dans le fond, les étudiants qui doivent venir te voir, c'est des
oui.
étudiants qui sont sûrement intéressants en création littéraire
oui.
et aux marges. Qu'est-ce que la littérature, peut-être, comme domaine, leur donne comme liberté et contrainte?
Oh, c'est un espace de survie pour beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire,
oui.
c'est l'espace qui leur permet, et puis c'est, en ceci, ça me correspond aussi, c'est l'espace qui leur permet de poser leurs existences et puis de déployer les possibilités de leur existence d'une manière très vitale.
Est-ce que ça leur met
oui.
quand même... Ça, je comprends que c'est un espace de liberté. Est-ce que
oui.
c'est aussi un espace, puis là, c'est intéressant parce que c'est la question épistémologique, de limite aussi?
C'est un espace de... Oui, il y a des contraintes, bien sûr. Il y a des contraintes parce que, évidemment, dans la liberté, il y a toujours des contraintes, ne serait-ce que par rapport aux choix que l'on fait.
Ouais.
Et puis, plus que des contraintes, il y a de la difficulté.
Mmh.
C'est-à-dire s'engager vraiment profondément dans une démarche de liberté est très difficile.
Oui.
Voilà.
Oui, oui,
donc,
à la fin.
Parce que la
marge peut être aussi très confortable. Parce que la marge peut aussi être très, très, très confortable.
Confortable, c'est peut-être pas le mot que je choisirais.
Mais du moins, on peut tellement en faire son identité
ouais.
que ça peut devenir aussi quelque chose qu'on ne questionne plus.
Bon, je ne sais pas si on arrive jamais au point où on peut ne pas le questionner. Le centre est toujours là pour nous rappeler
qu'on ne fait pas.
Donc, c'est un confort relatif. Mais la marge peut être aussi... Alors, c'est vrai, dans la question, j'entends ceci, c'est que la marge a été beaucoup décrite comme un espace de souffrance, de difficulté, d'ostracisation, d'exclusion. Mais il faut voir aussi que parfois, on choisit la marge et qu'effectivement...
Des fois, on est mieux dans la marge, tellement on est dissident de la norme.
Voilà, on choisit la marge et puis ça peut devenir, au contraire, une posture très puissante de liberté.
Parce qu'on le voit des fois, certaines personnes se font dire que leur discours est mainstream, alors que ça a toujours été marginaux. Puis on sent des crises identitaires chez certaines personnes, dans le sens que comment ça se fait que là, je suis repris par tel parti politique, je suis telle idée reprise alors que c'est...
Oui.
Des fois, il y a une...
Bon, la reprise, on ne la contrôle pas. Hein?
Oui,
on
non.
On a discuté de ça tout à l'heure. Oui, oui. C'est-à-dire que la reprise, on n'y peut rien, ou si peu.
Oui.
Mais ce qu'on peut faire, c'est de s'assurer que soi-même, sa démarche est... repose sur une certaine intégrité, oui, une intégrité intellectuelle.
Oui, c'est ça, on contrôle notre intégrité intellectuelle.
On ne peut pas contrôler ce qui en est fait, c'est sûr.
L'intégrité intellectuelle des autres. Mm-hmm. Après ça, de toute façon, on le voit rapidement.
Mais ce n'est pas très grave.
Oui.
Enfin, si, ça peut être très grave, mais du point de vue de notre travail, ça n'a pas nécessairement un impact.
Non, c'est ça, il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer dans notre travail. Mm-hmm. Comment vous vivez le fait d'être une... productrice, justement, de création, avec, justement, par exemple, ce dernier livre.
Oui.
Et en même temps, d'être enseignante en création, c'est-à-dire que vous êtes lue par vos élèves. Comment vous vivez le fait d'être une créatrice, je dirais, c'est une question un peu foucauldienne, sous le regard des autres? Dans le fond, vous êtes surveillée.
On est toujours dans le regard des autres quand on crée. Hein? On écrit vraiment pour être lu.
C'est tout. C'est tout à fait vrai.
Ça, que ce soit finalement un public lointain ou des étudiants, on n'y peut trop, pas grand-chose. Je n'amène pas beaucoup, en fait... Question, réponse compliquée. Je n'amène pas beaucoup ma création en tant que telle dans mon espace d'enseignement, ou du moins seulement à la fin de mes cours, des fois, je me dis, j'ai poussé ces gens à prendre tellement de risques avec leur travail que je veux moi-même prendre le risque de leur montrer un peu le mien. Et parfois, je leur montre des choses, pas toujours, mais parfois, je leur montre des choses que moi, j'ai créées pour un peu me commettre, en fait. C'est une posture presque, pas du tout de vantardise, mais au contraire, une posture pour dire, je me commets avec vous dans ce travail que nous essayons de faire ensemble.
Oui, puis vous allez peut-être le voir quand même, moi-même, il va avoir évolué dans le temps.
Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Mais la réponse plus complète, c'est que, en fait, pour moi, que je sois en train d'écrire des essais un peu briques, un peu denses, ou que je sois en train d'écrire une poésie peut-être encore plus dense, ou que je sois en train d'enseigner, pour moi, c'est le même geste. C'est la même chose, en fait. J'ai pris du temps avant de m'en rendre compte, mais c'est la même chose. Et pour moi, toute sa démarche, ce qu'elle a en commun, c'est vraiment un engagement envers la poésie. Pour moi, tout ça, c'est de la démarche poétique, même quand je suis dans une démarche pédagogique.
Donc, pour vous, est-ce que vous, la poésie, c'est ce que vous mettez au-dessus de tout dans la littérature?
C'est mon langage.
C'est ton langage?
Oui, oui.
Ah, c'est fou que tu dises ça, parce que j'ai déjà lu d'autres textes de toi, des textes dans des collectifs, d'autres livres, mais j'ai l'impression d'avoir plus compris justement dans Mourir est beau.
Ouais.
Donc, on va justement rentrer dans le livre plus longuement. Le livre commence avec une phrase qui est absolument fabuleuse, c'est « J'ai longtemps cru que ce livre me tuerait ». Phrase compliquée, question simple, pourquoi?
Parce que c'était périlleux de faire une telle démarche autour de la mort des personnes afrodescendantes dans les Amériques, en me disant moi-même une personne noire afrodescendante, une personne noire dans les Amériques où je vis en même temps que j'en parle. Et puis c'était périlleux aussi d'aller jusqu'au bout de ce qui pouvait être fait de la mort dans cette poésie-là. C'est une démarche longue. La plupart de mes démarches sont des démarches assez longues, assez périlleuses, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit de la marche tout à l'heure, c'est que c'est risqué d'aller dans la marche.
Oui.
Et donc, moi, c'est une zone que j'aime bien fréquenter. Avant de m'intéresser à la mort, je m'étais intéressée à la folie. J'avais travaillé cette question de la folie au moins de trois manières différentes, par l'essai, par la peinture et par l'écriture poétique, les trois dans le même livre.
Ouais.
Donc, avant la mort, c'était la folie. Avant la folie, c'était l'opacité et la marge. Donc, toujours, je suis dans cette zone un peu de non-droit. À naviguer finalement, et des zones vraiment où je me commets, c'est-à-dire où je risque quelque chose de moi. Je ne le fais pas de manière distanciée, j'ai vraiment l'impression d'être en train de travailler des choses qui me concernent en même temps que je réfléchis à des objets plus larges. Et donc, oui, c'était risqué d'écrire un livre sur la mort.
Mais c'est aussi trois dangers de la marge.
Pardon?
Dans le sens, c'est des dangers de la marge aussi. Être oui, oui. fou, de, en virer fou, en mourir.
Mais oui, bien sûr.
Donc, c'est des expériences
et puis
limites.
Moi, oui, ce sont des expériences limites. Et l'écriture, pour moi, c'est une activité très sérieuse. Alors, voilà, j'en parle en souriant ou en riant parfois, mais c'est une activité très sérieuse pour
mais
moi.
Mais ce n'est pas parce qu'on sourit que ce n'est pas sérieux.
Ah non, c'est surtout parce qu'on sourit que c'est sérieux.
Oui, exactement. c'est exactement ça. Qu'est-ce qui, mais justement... pour toi, comme créatrice, ça a été dangereux, justement, dans cette expérience-là d'écrire ce livre-là?
Parce qu'on écrit... Ben déjà, j'écris au jeu, comment dire... Je voulais vraiment penser profondément à ces objets. Plus que penser profondément à ces objets, je voulais les vivre. Et donc, voilà, pour moi, c'est à partir de là que j'écris, à partir de vraiment de quelque chose... qui me travaille très profondément, qui est très urgent pour moi, que je sens que je dois traverser à ce moment-là de ma vie. Alors,
il y a quelque chose de l'ordre du carnet de retour, donc.
Ah, peut-être, oui. Peut-être que c'est un carnet de retour.
Mais...
Et puisque j'écris cette phrase, c'est que, quelque part, j'ai survécu à ce voyage.
Oui, c'est ça, pour écrire cette phrase-là, il faut avoir survécu.
C'est ça.
Donc, puis on en est fort heureux. Je vais continuer de te citer, justement, dans cette introduction-là. Oui. Tu dis « L'écriture est la route des fils constantes des files constantes quand on ne sait comment arriver, quand on est persuadé en revanche que le repos ne nous a pas permis, que ce déroulé dilapide sans doute le fil de notre vie et accélère la fin, quand on ne sait où trouver habitat et refuge, où fabriquer les poèmes et inventer la vie. » Moi, j'ai adoré ça. Mmh. Est-ce que tu as écrit ce livre-là pour faire sens à dans un mouvement, par exemple, qui est difficile par rapport à ces questions-là, ou c'est justement pour poursuivre un peu ce sens-là sans nécessairement répondre totalement à la question?
Non, on ne peut pas répondre totalement à la question. Et puis, c'est sûr qu'il y a une démarche de sens, une urgence de trouver du sens qui existe dans tout mon travail de création, quel qu'il soit. Dans ce cas-ci, c'est intéressant ce passage-là parce qu'on voit comment il y a plusieurs choses qui sont...
C'est une phrase qu'on pourrait déplier pendant des heures.
Oui, il y a comme 3, 4, 5 niveaux. Parce qu'en fait, il y a mon mouvement dans l'espace, qui est très vrai, puisque je vis effectivement entre deux villes. Je suis constamment en train de bouger. Il y a le mouvement de l'affectivité, le mouvement de la pensée, le mouvement de la vie. Mais il y a aussi le mouvement de toutes ces personnes afrodescendantes déplacées dans l'histoire depuis des siècles.
Oui.
Donc, voilà, il y a tout ça en même temps qui bouge déjà.
Oui, mais je suis content que tu le nommes parce que j'avais peur de surinterpréter cette phrase-là, de tous ces niveaux-là. Moi, je connais biographiquement tous tes déplacements, je dirais. Sur la 10, on en fait beaucoup tous les deux. Moi aussi, je partage ma vie entre Sherbrooke et Montréal.
Mm.
Mais justement, cette espèce de mouvement-là dans lequel tu... plus confortable aujourd'hui que justement celui qui est le premier, celui des afro-descendants, ce mouvement-là de déracinement. Mais il y a une poursuite de ce mouvement-là chez toi.
C'est
à plus petite échelle, de manière plus confortable, évidemment.
Oui.
Mais quand même, on voit qu'il y a cette poursuite-là du voyage, d'une certaine manière.
Cette poursuite du mouvement forcé et pas forcé, volontaire et volontaire. Oui, tout à fait.
Oui, c'est
être pris. Et puis, on aura l'occasion d'en parler aussi. C'est-à-dire, quand j'écris « jeu », c'est un jeu très poreux. C'est-à-dire que le risque aussi, pour revenir à la question du risque, c'était d'endosser finalement tous ces parcours de vie à partir de mon jeu.
Juste, on a parlé des marges et de la folie. Mm-hmm. Justement, dans cette introduction-là, tu en parles aussi.
C'est
ce qui
vrai.
Est intéressant, c'est que tu dis « penser la mort, pour moi, c'était inévitable ».
Oui, oui.
Mais pourquoi c'était inévitable?
Parce que je suis dans une progression vers le pire.
Donc, c'est un mouvement de recherche qui t'a mené là, en fait.
Oui, tout à fait, oui. C'est un mouvement de recherche qui habite ma démarche depuis maintenant longtemps. Et puis, au début, et puis encore aujourd'hui, c'est assez déstabilisant. Mais comme je suis plus expérimentée, j'y suis un peu habituée maintenant. On verra ce qui vient après. Hein, mais j'entame toujours de grands cycles de création qui vont durer plusieurs années. Celui-là a duré un peu plus que 10 ans, en fait.
10 ans?
Mais oui, si je réfléchis aux premières fois auxquelles j'ai pensé à ces premières... à ses premiers élans, à ses premières idées, ça fait un peu plus que 10 ans.
Et tu as dit, il y a quelque chose d'intéressant dans inévitable.
Oui.
Parce que dans quelque chose d'inévitable, moi j'entends, c'est peut-être ça va peut-être plus me dévoiler moi que toi, mais j'entends toujours le fait que des fois on aurait voulu l'éviter, quand quelque chose est inévitable, c'est soit on est confronté, soit on a essayé de contourner. On essaie de pas nécessairement... toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as pris et accepté en disant que c'est inévitable ou c'est quelque chose que tu dis, j'ai pas le choix de m'y coltailler parce que j'arrive pas à le contourner, j'arrive pas à... même si c'est inconfortable, même si j'ai pas le choix de l'affronter.
Mais en fait, c'est déjà quelque chose qui en écho à la mort, puisque le grand inévitable, c'est vraiment...
la mort, j'avoue que c'est le grand inévitable.
Mais c'est encore de ça qu'il s'agit. En fait.
Moi, même s'il y en a certains qui espèrent éviter ça, c'est le grand inévitable.
Mais c'est sûr qu'il y a une tension. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre jusque dans la structure du livre, c'est-à-dire que le livre est divisé, comme tu l'as vu, en plusieurs sections.
Oui.
Et c'est un mouvement qui va quand même vers la vie. Et c'est presque un tour de passe-passe de ma part que d'écrire un livre sur la mort pour en fait parler de la vie.
Oui, mais en même temps, c'est peut-être la meilleure façon de parler de la vie. Parce que c'est ça. Est-ce que quand on écrit un livre comme ça, on a toujours le sentiment justement que... justement ce genre de grand cycle de 10 ans, là, où est-ce qu'on arrive au bout d'une démarche, est-ce qu'on a souvent ce sentiment-là que c'est peut-être le dernier?
Ah oui,
on écrit comme si... Je vois pas comment je pourrais... Parce que je dois t'avouer, quand j'ai fini ça, j'ai dit, Stéphane, après, doit quand même écrire par-delà la mort.
Oui, donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Donc finalement, tu vas être... Non, mais c'est là, je me suis dit, quand même, c'est audacieux, dans le sens d'écrire ça. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là? Est-ce que c'est...
Oui, mais j'ai ce sentiment à chaque fois que je termine une œuvre qui est importante pour moi. Et comme j'y mets beaucoup de temps en général, c'est plutôt important pour moi. Oui, j'ai souvent ce sentiment de fin du monde... et que c'est peut-être après il y aura peut-être rien, mais bon, ça fait partie de mon métier en fait, que d'être résistante finalement à de vivre complètement ce sentiment de fin absolu, mais en même temps de savoir qu'il y a quelque chose qui va arriver après sans savoir ce que c'est.
J'adore parce que les personnes ne peuvent pas le savoir, mais tu parles de résistance avec un immense sourire, ce qui pour moi, c'est mon genre de résistance.
Joyeux de résister.
Oui, je pense qu'on...
C'est mon sourire, je ne sais pas ce que mon sourire traduit, c'est toi qui es en face de moi, mais moi j'ai un sourire un peu d'une revanche prise.
Oui, satisfaite et très très belle aussi,
oui,
c'est
oui.
Ça qui est intéressant. En quoi, justement, on va dire la marge et la folie sont deux choses qui nous permettent justement de comprendre un peu mieux justement la pensée de la mort chez justement chez les Noirs afro-américains. En quoi ces deux choses, ces deux objets-là nous aident à comprendre cette longue histoire-là?
Ah, mon Dieu, grande question encore. Mais d'abord, je ne parle pas que des Afro-Américains, ça c'est important.
Oui,
c'est-à-dire que je parle...
Les Noirs en Amérique.
Les Noirs en Amérique. Et les Noirs en Amérique sont des populations très, très diverses. Et,
absolument.
Et en fait, pourquoi j'en parle maintenant? C'est parce qu'une des raisons de ce livre, c'était une observation assez de base que je m'étais faite, que finalement, les morts des personnes, disons, haïtiennes, qui sont vraiment dans un contexte de majorité noire, et les vies et les morts des personnes haïtiennes étaient très différentes, finalement, des vies que pouvaient... et des morts que pouvaient avoir les personnes afro-nord-américaines.
Oui.
Et j'inclus le Canada, quand je dis afro-nord-américaine, c'est à dessein.
Oui, c'est l'Amérique comme continent.
Non, afro-nord-américaine, vraiment.
OK, donc, nord-américaine.
États-Unis-Canada.
OK, parfait.
États-Unis-Canada. Donc, ce sont les deux pôles à partir, dans lesquels j'ai vécu déjà et puis à partir desquels j'ai réfléchi vraiment pour faire ce livre. Et moi, il me semblait vraiment que les Haïtiens avaient réussi à faire de la mort, au moins sur un plan politique, épistémique, quelque chose de vraiment subversif, parce que mourir est beau, et puis c'est dévoilé tout de suite quand on ouvre la page, ce sont des paroles qui existent dans l'hymne national haïtien, ce qui peut surprendre vraiment. Un hymne national, c'est en principe un chant qui représente une nation, et dans notre hymne national, il y a mourir est beau. Mais mourir est beau, c'est pas mourir est beau pour rien, c'est mourir est beau pour défendre la liberté, pour défendre la liberté radicale telle que nous l'avons exécutée au 19e siècle contre toute attente, finalement.
Ah, absolument. En ce sens, Haïti, c'est une grande leçon.
C'est une grande
leçon de liberté.
Oh, oui, c'est l'une des plus grandes pour moi. Et donc, cette mort finalement très, très noble qui est réclamée... face à des non-vies, ce que Fanon appelait le non-être, finalement, de la condition de domination d'esclavagisés. Et puis, face à ça, au lieu d'avoir cette non-vie, réclamer la mort pour avoir une vraie vie. Alors, c'est un geste d'une beauté exceptionnelle qui existe dans notre hymne national. Et face à ça, j'observais aussi tous ces mouvements qu'il y avait eu autour de la mort de George Floyd, de Black Lives Matter, mais plus anciens, évidemment, dans l'histoire des Afro-Nord-Américains de résistance, et de cette mort qu'on leur distribuait vraiment de manière individualisée, mais en même temps collective. Ils ne semblaient jamais être exécutés en même temps. On n'avait pas l'impression que c'était un génocide, mais un à un, on les tuait. Et là, je cite une ancienne condisciple de classe à moi en Haïti, qui depuis Haïti était catastrophée de voir, finalement, ils sont en train de les tuer un à un.
Ouais, absolument.
Alors... Moi, je voulais réfléchir à tout ça. Comment est-ce que, dans le contexte nord-américain, canadien, états-unien, les personnes afro-descendantes sont poussées vers la mort de manière implicite ou explicite?
Ce que Foucault appelle la biopolitique, c'est justement comment on envoie des populations vers la mort.
Oui, et malgré la situation très périlleuse et très précaire souvent d'Haïti, comment au contraire les Haïtiens avaient réussi à faire de leur propre mort quelque chose qui les poussait à plus de vie? Après... La comparaison, évidemment, s'est brouillée.
Oui.
Les choses se sont complexifiées, bien sûr. Il y a eu toujours des résistances afro-nord-américaines aux États-Unis et au Canada. Il y a eu des mouvements de revendication et puis de subversion très similaires quand même à ce qui s'est passé de manière plus petite, à ce qui s'est passé de manière totale en Haïti.
Mmh.
Et en Haïti aussi, c'est un pays qui a été constamment réattaqué par des puissances coloniales pour lui enlever finalement ce qu'il avait créé, et ce qui n'est pas toujours pas réussi malgré toutes les difficultés dont on entend parler d'aujourd'hui.
Tout à fait.
C'est fascinant quand même.
C'est absolument fascinant, mais en ce sens, absolument fascinant. Tu dis aussi dans ce texte-là, vouloir belle cette mort.
Eh oui.
T'es professeur de littérature, t'en parles beaucoup des allers-retours justement entre Haïti, ouais. La mort et la littérature. Ouais. Je me demande... Là, c'est une question un peu philosophique. On va sortir légèrement de ton livre pour cette question-là.
Oui.
Mais en quoi la littérature peut nous aider à rendre belle cette mort, ne serait-ce que par l'écriture ou par le sens que nous, on y met dans notre écriture?
Oui, tu vois, c'est intéressant parce que cette phrase-là n'est pas nécessairement un programme. Au contraire, je crois que je me suis beaucoup méfiée en écrivant ce livre de ne pas rentrer dans des processus d'esthétisation de la mort.
Non.
Je voulais que ça soit une écriture quand même, structurellement c'est complexe, mais tu verras que quand même, il y a un désir de dire les choses un peu directement.
Simplement. Ça c'est absolu, il n'y a pas de détour.
Et donc je ne voulais pas, parce que ça me semblait très vulgaire d'essayer de... très vulgaire et un peu obscène d'essayer d'esthétiser en fait ces morts-là. Je ne voulais pas rentrer dans les processus cannibalistiques de la littérature. Et donc, il y a beaucoup de prudence pour ne pas rentrer dans les formes d'esthétisation. Donc, s'il y a beauté, c'est une beauté qui est plus...
Mais peut-être dans cet élan de liberté.
Dans cet élan de liberté et puis dans ce geste réclamé. Et dans cette vie, finalement, que ces populations noires réussissent à inventer envers et contre tout.
Mais c'est ça pour...
Ça, j'ai trouvé, c'était magnifique.
Mais ça, pour préciser ma question, en fait, c'est pas tant par justement l'usage, on va dire, abusif de métaphores que finalement, on finit par, des fois, rendre justement la mort plus belle que ce qu'elle est. Mais ce qui sort de ce livre-là, pour moi, c'est un grand courant de liberté.
Ouais.
On sent justement cette liberté-là prise vis-à-vis la mort.
Ouais.
Justement, comment, on va préciser ma question, comment par la littérature, on arrive justement à rendre compte, disons, on en parlait un peu hors micro, de cette vérité dans le sens de cette chose-là qu'on ne peut pas justement t'en parler avec ton premier essai, qui est incontournable. C'est-à-dire qu'on arrive à traduire cette liberté-là par la mort, mais sans justement rien cacher. Comment on arrive à faire ça?
Difficilement.
Beaucoup de travail, hein?
Oui, beaucoup de travail, c'est sûr. C'est sûr, avec beaucoup de difficultés. Et puis, ce n'est pas fini. C'est-à-dire, il est possible de faire le tour complètement de cette idée, de déclarer qu'on y est parvenu parfaitement.
Ouais.
Avec difficulté, mais en même temps, en misant quelque chose de soi-même. Ça, c'est une notion aussi, tu vois, pour retourner à la pédagogie. J'aime bien essayer cette notion de risque dans la création. Ouais. Pour moi, c'est presque devenu un élément discriminant pour savoir si on est vraiment dans la création ou si on est dans le divertissement.
Je comprends.
Ou la facétie. Pour moi, la création, c'est vraiment ce qui comporte un risque.
Waouh. Mais c'est très... Oui, puis je suis d'accord avec toi, je pense. Vraiment. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs livres qui sont absolument pas risqués.
Oui, au contraire, qui vont dans le sens... J'avais écrit un texte quand il y avait eu la énième polémique au sujet de la pièce Freddy. Ouais. Si tu te rappelles un petit peu cette polémique-là, et puis j'avais dit, il y a un théâtre qui a écrit pour le prince. Mm. Si tu te rappelles l'histoire du théâtre et la cour, c'est vraiment un théâtre qui est produit pour le prince, pour lui faire plaisir, pour vanter sa brillance, sa beauté, son éclat. Et puis il y a un théâtre qui est fait pour résister au prince.
Ouais.
Et pour moi, c'est dans cet autre théâtre-là que vraiment agit la création.
C'est là que, donc, pour toi, il y a toujours une forme de risque, justement. Donc, il y a toujours un affrontement avec le pouvoir.
Oui. Il y a quelque chose qui doit déjouer, en fait, les systèmes dans lesquels nous vivons. Et puis, il y a toujours quelque chose qui déjoue un peu le pouvoir. Donc, c'est vraiment... Alors, je le théorise de plus en plus. Et puis, je l'ai écrit parfois ici et là. Un jour, j'écrirai que sur ça un texte qui portera sur le risque. Mais oui, le risque, pour moi, est l'élément discriminant. Oui.
Et... Contre quel risque, quel pouvoir tu t'écris dans ce livre-là? Parce que la mort, c'est pas un pouvoir. Moi, j'ai beaucoup de temps, oui.
Oui, évidemment. D'abord, tous les systèmes qui produisent cette mort.
Oui.
Évidemment.
Dont tu traites, avec pudeur, ouais. Mais directement.
Oui, oui. Mais je veux les traiter en mettant au centre, finalement, la parole des... Ouais. Enfin, ma parole.
la parole des premières
personnes concernées.
Oui, des paroles c'est-à-dire qui sont
invisibilisées. Je ne suis pas intéressée à écrire une énième description sur les mécanismes de ces pouvoirs. Ces mécanismes apparaissent quand je parle depuis le lieu des personnes qui les vivent. Ouais. Tu vois, je n'ai pas besoin d'en parler directement, de leur donner encore plus de place.
Ouais, tu fais confiance à la parole pour les démasquer.
Oui, oui. Et de fait, quand cette parole est directement accessible, ils sont démasqués nécessairement si c'est bien fait, si on arrive à le faire. Ouais.
On va parler justement de comment c'est fait. Moi, je lis beaucoup de poésie, mais c'était dans mes premiers entretiens que je fais. C'est toujours je t'en ai parlé, j'ai une anxiété d'intervieweur parce que c'est un genre que j'aime beaucoup et dont je ne sais jamais quoi dire. Et là, j'ouvre ton livre que tu m'as envoyé, puis j'étais très heureux. Et là, je vois cet éclatement de la forme d'un dispositif. Ouais. De quoi il témoigne, cet éclatement-là, des phrases, justement, sur la page?
Oui, c'est le placement des mots sur la page. C'est vraiment quelque chose que je travaille énormément. Donc, je suis très contente que tu l'aies remarqué.
Oui, bien, c'était fascinant. J'ai adoré ça. J'ai plein d'hypothèses. Je me demande, justement, qu'est-ce que tu voulais faire par ça? Parce qu'on voit que c'est une démarche qui est très, très, très réfléchie. Là.
Oui, et c'est précis au point où, tu vois, quand j'envoie mon livre aux éditrices, c'est les éditrices que j'ai eues, et en révision, j'envoie aussi un document PDF pour qu'on voit exactement les blancs là où je les ai mis. C'est une démarche vraiment très importante pour moi parce que j'utilise en fait la page un peu comme si je faisais une installation.
Oui, c'est ça, mais...
Tu vois,
je sais donc, que tu aimes l'art visuel, ouais, donc je me demandais s'il y avait...
Oh, oui, il y a un élément visuel, c'est très important. Et puis après, il y a plusieurs dimensions, il n'y a pas que celui-là, tu vois. En disposant mes mots de manière aussi précise sur la page, je crée deux effets de manière très volontaire. Je crée un effet rythmique qui casse le rythme, ton rythme personnel d'expression.
Absolument.
Et donc ça, c'est
voulu. J'ai été obligé de ralentir mon rythme de lecture.
Oui, bien sûr. Et puis pour te faire entrer dans une autre rythmique qui n'est pas la tienne aussi. Oui. Donc ça t'oblige à une forme de décentrement qui est pour moi essentielle.
Oui, mais...
Ou de recentrement dépendant qu'il y.
Oui.
Tu vois?
Mais moi, ça m'a décentré. Je pense que mes coordonnées sociales, ça ne te donnera pas comme réponse. Mais en même temps, ça m'a permis de me recentrer justement sur la question du sens que tu voulais produire.
Oui.
Ça, c'est vraiment intéressant, ce travail-là.
Et puis, tu verras aussi que des fois, la page te force à te poser... Enfin, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais c'est arrivé à Martine Audet, avec qui j'avais eu un long entretien au sujet de ce travail. Des fois, tu lis et puis tu n'es pas sûr si le mot qui apparaît comme ça à l'autre bout, tu devrais le rattacher à ce qui précède ou à ce qui suit.
Exactement.
C'est très volontaire parce que je voudrais que ça soit les deux possibilités.
Oui, parce que c'était possible, justement, les deux.
Voilà. Donc, à ce moment, je viens de doubler, tripler les possibilités de lecture du texte.
Et est-ce que, justement, en doublant puis en triplant les possibilités,
au moins.
Est-ce que tu as peur, de la compréhension de ton texte?
Encore une fois, c'est la partie qui m'appartient.
Ah, ça, j'adore. J'adore ce genre.
Après, tu vois, tu as toujours des lecteurs. Ça ne veut pas dire que tout se vaut et toutes les lectures se valent. Non, c'est sûr. Tu vois, mais ça veut dire que quelqu'un qui est un peu honnête et un peu attentif verra quelque chose de très intéressant. Parfois, moi, que je n'avais pas vu. Tu sais, à la sortie de ce livre, j'ai choisi pas faire lancement, de faire plutôt plusieurs entretiens que tu as vu passer. Et à chaque fois, nous avions des discussions très, très, très différentes. Oui. Et puis ça m'a vraiment plu.
Oui, mais c'est ça, mais il faut toujours partir du texte pour l'interprétation.
Oui, et puis le texte contenait toutes ces possibilités. C'est ça qui est bien.
Tu écris justement dans cet éclatement que j'ai tant aimé, « Je veillerai toute voile dehors, lampée allumée, à ne pas éteindre
lampe. Par... »
excuse-moi, c'est ma marque de... j'ai souligné, je me suis moi-même décidé. j'ai rajouté un accent aigu. Excusez-moi. « Toute voile dehors, lampe allumée, à ne pas éteindre par inadvertance les incendies promis.
Oui. »
Moi, j'ai arrêté là. Je me demandais, est-ce que c'est presque une définition de l'enseignement de la création littéraire?
Ah,
ne pas éteindre, justement,
les incendies promis. Ah,
parce que parce qu'on dirait, comme enseignant, c'est tellement facile d'éteindre les étudiants.
Mais oui, bien sûr, c'est très facile. Et donc, il ne faut pas le faire.
Oui, mais c'est pour ça que je voulais juste dire, par rapport à la création littéraire, moi, quand j'avais vu ça, j'ai dit, on dirait presque que ça pourrait être le début d'un manifeste là-dessus.
Oui,
ne
vrai.
Pas éteindre les incendies.
Mais tu remarqueras que c'est un des premiers poèmes. Donc c'est... En fait, il y a deux textes qui ouvrent le livre. Il y a le prétexte que tu as lu et puis ce texte que tu viens de lire qui s'appelle « Sur la crête ».
Oui, exactement.
Et les deux textes ouvrent le livre pour moi et le définissent en même temps. « Sur la crête », tu vois, par exemple, pour moi, ça m'est venu presque un dernier. J'avais presque fini d'écrire le livre, le titre,
okay.
et un peu le texte, c'est cette idée d'être vraiment dans cet espace liminaire de la crête. Tu peux tomber d'un côté de la montagne ou de l'autre.
Ouais.
Alors, est-ce que le livre va basculer vers la mort ou vers la vie?
Ah non, mais c'est absolument.
Donc, tu es sur la crête. Et puis après, quand j'ai expliqué ceci, je pense, tu vois, tu t'es arrêté au même point que Martine Audet, c'est intéressant. quand j'ai parlé de ce poème-là, justement, en entretien, il y avait plusieurs personnes haïtiennes dans la salle. Et après, au moment des questions, elles étaient toutes persuadées que j'avais voulu dire la crête à Pierrot.
Ah.
La crête à Pierrot, c'est une des dernières batailles de la guerre de l'indépendance haïtienne. Mais tu vois, bien sûr, c'est dans mon inconscient, j'ai étudié ça plus qu'enfant.
Oui.
Mais je n'avais pas conscience que je l'avais posé là. Donc tu vois, ils m'ont remis quelque chose que j'ai dû mettre aussi pour cette raison, mais que j'avais oublié.
C'est absolument fascinant. Justement, je continue parce que maintenant que tu m'as donné cette clé de lecture-là, que
ben oui,
c'est pour
écoute,
passer d'un
moi,
morceau
j'ai dû le
à un autre. Non, mais tu dis promis, puis là, je me suis dit, mais je vais lire juste en
Vas-y.
Dessous. Ça dit « Ici, alors que l'oubli, paraît-il, soit ma seule chance écartillée à perte de vue. » En quoi l'oubli, surtout pour, on dirait, pour, avec l'histoire d'Haïti, qui est tout sauf une histoire d'oubli.
Ça, c'est sûr.
C'est du monde qui se bat pour faire vivre, justement, la mémoire.
Oui.
Justement, en quoi, justement, c'est l'oubli peut paraître comme une seule chance? Qu'est-ce qu'il y a de, je dirais presque, de vertueux dans
l'oubli? Parce qu'on a envie, des fois, aussi, de fuir. Tu vois, alors, quand tu le lis, il faut penser que le jeu n'est pas un jeu de certitude.
Ouais.
Ce n'est pas un jeu nécessairement individuel et ce n'est pas un jeu toujours autobiographique. Parfois, ça l'est, mais parfois, tu peux te tromper.
Oui.
C'est pas toujours... Et donc, comme ce n'est pas un jeu de certitude, il a des mouvements, des hésitations, des quiétudes, de remise en cause.
Absolument.
Ça, c'en est un.
Et ça, c'est important.
Oui, oui.
Aussi.
Oui, c'est très important. Oui. Je ne veux pas capturer, je ne veux pas fixer les choses.
Pourquoi?
Quand j'écris.
Pourquoi?
Parce que je préfère le mouvement.
Oui. Ah, c'est intéressant vouloir à la fois, je dirais, comme une espèce de certitude et le mouvement.
Oui, oui.
Comment les deux sont possibles? Parce qu'on a souvent l'impression que juste...
Dans mon texte?
Non, mais pas dans ton texte, mais en général, mais dans ton texte aussi. Comment on arrive à atteindre une certaine certitude par le mouvement, alors que par défaut, des fois, le mouvement, on pourrait le voir comme quelque chose qui défait nos certitudes.
Ah, moi la certitude m'intéresse peu.
Ça, j'aime ça.
Ouais, ouais, la certitude m'intéresse peu. Je trouve que la certitude est beaucoup plus intéressante. Et donc, mon jeu est très incertain. Peut-être que je n'ai pas assez prononcé le « un ». Il est incertain. Il est fragile, il est précaire. En même temps, il est très puissant, il est très fort.
Oui, mais
tolère sa fragilité.
Voilà. Est-ce que c'est ça ma question. C'est est-ce que, justement, on est fort d'accepter nos fragilités? Absolument.
Oui, oui. Ouais.
Donc, ah, mais moi, j'adore ça.
Mais il bouge aussi, il grandit.
Oui.
C'est-à-dire que... d'un poème à l'autre, il n'est pas dans la même condition.
Justement, parlons de ce mouvement-là. J'ai cherché l'extrait que je voulais parce que tu parlais de mouvement.
Oui.
Il y a le mouvement au sein même de ce texte-là. Oui. Je pense à un endroit où tu dis « Je suis à l'onde de ce retrait de l'émancipation » qui permet le retrait.
T'as presque maintenant... toutes les clés maintenant. Hein?
Oui, mais c'est... Non, en fait, c'est, ça me rassure beaucoup parce que je veux dire, mes marges sont remplies de questions pour toi.
Oui, très bien.
Je veux dire, mais c'est pour ça que tu l'as vu. Là, les personnes ne peuvent pas voir, mais je veux dire, à chaque fois que je corne une page, j'avais une question en marge.
J'étais contente. Donc, je suis très contente. Alors, tu t'imagines mon délice en tant que spécialiste de la marge d'avoir des choses dans la marge de mon livre.
Oh, oui,
je suis ravie.
Les marges sont habitées.
Excellent.
Mais justement, en quoi l'émancipation puis le retrait se nourrissent?
Parce que des fois, tu peux te retirer. Ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que c'est toujours par rapport finalement à ces systèmes, à ces ordres. Autrefois, j'avais écrit dans les Jeux du dissemblable, les ordres qui nous tuent.
Ouais.
Tu peux aussi te retirer de la table. Ouais. Peut-être pas pour longtemps, mais le retrait est un geste très fort.
On sent que, justement, il y a cette tension-là, mais en même temps, c'est un objet comme la mort. C'est difficile de ne pas vouloir le retrait, dans le sens, c'est, il y a des personnes qui veulent la mort, mais généralement, on a un enjeu d'évitement par rapport à ces questions-là ou par rapport à ça. Donc, c'est ce...
C'est culturel aussi, parce que tu vois, par exemple, dans la culture, les gens vivent avec leur mort. C'est pas du tout un sujet d'évitement, à moins qu'on soit vraiment dans des circonstances traumatiques, tu vois. Oui. Par exemple, le trauma vécu par certaines personnes ayant subi la violence, c'est quand même des circonstances très spécifiques. Mais normalement, s'il y a une norme, c'est possible, dans la culture haïtienne, les gens n'ont pas cette aversion pour la mort, ils coexistent avec leur mort. La religion vaudou, par exemple, c'est une religion de l'ancestralité, où on est toujours en contact et communication avec les ancêtres. Les ancêtres sont souvent présents. Et ceci, tu vois, c'est en dehors de la religion, c'est quelque chose qui investit la culture haïtienne de manière très profonde, même si on n'est pas particulièrement pratiquant du vaudou.
Non, c'est ça.
Les catholiques haïtiens ont vraiment cette notion des ancêtres qui est très, très forte dans notre culture. Si tu vas d'ailleurs à l'extérieur de la ville, les gens construisent, les gens d'abord enterrent en milieu rural les morts sur leur terrain. Et souvent, ils leur construisent un petit mausolée qui est à peine plus petit que leur maison à eux. Donc, il y a cette cohabitation et cette coexistence avec la mort qui est très naturelle et puis qui est très porteuse, au contraire d'être inquiétante.
Elle est porteuse de quoi? Pour un Nord-Américain qui, justement... Moi, je vis devant un cimetière. Donc, je pense que j'ai un rapport à la mort qui est différent de certaines personnes. Moi, j'adore ça.
Mais c'est bien de... C'est juste l'idée de pouvoir parler à ses ancêtres. C'est merveilleux.
Oui.
De recevoir leur appui, leur protection, leurs conseils. Tu vois, et puis leur parler, même pas nécessairement dans une perspective très spectaculaire et surnaturelle, mais sentir que c'est avec ceux qui nous ont précédés, nous sommes toujours en conversation, que cette conversation ne s'est pas arrêtée avec leur mort.
Comment on fait justement, puis je pense que c'est un thème que dans ton livre, donc c'est pour ça que je me permets cette question-là, c'est comment on fait pour parler avec les morts, avec nos morts, sans parler pour eux? Parce que quand je lis ton livre, je sens que tu parles avec eux, mais je sens pas que tu...
Tu ne parles pas à leur place.
Tu ne parles pas à leur place.
Non.
Donc, comment on fait ça? Parce que, je veux dire, c'est tellement facile de mettre des intentions dans la bouche. Mais on le voit en littérature, là, je pense, le nombre de choses qu'on fait dire à des livres ou à des auteurs morts. Justement, on en parlait aussi.
On en parlait aussi.
hors micro. Comment on fait, justement, pour entretenir la conversation dans un geste d'écriture sans leur voler quelque chose de plus?
Mais déjà, on n'est pas dans un rapport de vol avec nos propres morts.
Ah oui, on est dans
un rapport de continuité. Ouais. Il y a eu cette phrase très belle dans le film Amistad qui avait été dirigé par Steven Spielberg autrefois pour raconter cet épisode où des personnes africaines s'étaient révoltées et puis avaient vraiment réussi à reprendre le contrôle d'un navire négrier.
Okay.
Et puis finalement avaient réussi à naviguer par eux-mêmes jusqu'en Amérique du Nord. Et ils étaient passés en cours pour qu'on juge de leur, entre guillemets, méfait. Et puis toute la discussion. Et puis à un moment, le chef qui avait dirigé ce mouvement de l'Amistad a dit « Mais de toutes les manières, dans cette histoire de cour, mes ancêtres me soutiendront parce que toute leur existence a produit la mienne. Je suis le déroulé naturel de leur existence. Alors c'est sûr qu'ils seront avec moi. »
Est-ce que, avec ce que tu viens de dire, c'est possible donc de trahir? Ou même trahir est à peu près impossible?
Mais c'est sûr que tu peux toujours trahir. Hein?
Parce que, me semble, il y a certaines personnes qui peuvent...
qui trahissent pas mal. Ouais. Bien sûr, tu peux toujours trahir. Mais dans ce cas, c'est assez évident que tu n'es pas dans la... C'est peut-être, je ne sais pas, peut-être je te l'ai décrit mal. Mais il y a une certaine paix qui vient avec l'idée que tu continues quelque chose que les meilleurs des tiens ont commencé avant toi, qui n'est pas celle de la personne qui trahit et puis qui tire profit.
Non, c'est ça.
Tu vois, qui se réclame finalement de ceux qui l'ont précédé pour tirer profit de leur existence pour son bénéfice propre. Ce n'est pas la même posture.
Non.
Et ce n'est pas la même sérénité.
Non, on dort pas de la même manière.
Après. On dort pas de la même manière, ça c'est certain. Surtout, surtout quand on y croit quand même un petit peu.
Non, ça, c'est...
On se demande ce qui arrivera si nous continuons dans cette voie de la trahison.
Il y a une quelque chose. Oh non, c'est ça. Non.
Mais tu vois, c'est une bonne question parce que finalement, dans toute ma réflexion sur l'écriture avec, qui est une question éthique très intéressante et puis très urgente. Absolument. À laquelle je réfléchis depuis un petit moment aussi maintenant. Dans toute cette démarche de l'écriture avec, j'en suis venue à beaucoup réfléchir à cette notion de l'écriture avec ou la création avec, c'est large. Je suis venue vraiment à cette notion d'être capable de continuer dans le présent et dans l'avenir des gestes très anciens qui ont été commencés bien longtemps avant nous et de leur donner une nouvelle dimension par notre propre geste. Alors là, tu vois, tu es dans l'avec, mais c'est un avec qui est tellement dans la continuité et qui est tellement dans la continuité de ta propre existence et dans la continuité de l'existence de ces personnes qui t'ont précédé, que ce n'est pas une écriture avec l'autre différent de toi, mais l'autre avec toi.
C'est magnifique, tu m'obliges à changer ma question. Ça, c'est toujours des beaux moments dans un entretien. Ma question originale, c'était est-ce que l'écriture, je me basais sur un extrait de ton livre, permet justement de retarder la mort? Ça, c'est une question qui peut être intéressante. Mais avec ce que tu viens de dire, j'ai envie de me dire, est-ce que c'est quelque chose qui retarde la mort ou c'est quelque chose qui nous permet de tendre vers elle de manière sereine, justement dans cette notion-là de continuité?
Oui, mais c'est un peu cette idée de... Enfin, c'est un titre du livre, c'est-à-dire de mort pour la vie. C'est-à-dire que cette mort n'est pas ce qui en fait une, entre guillemets, bonne mort, c'est qu'elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite dans le sens où elle permet quelque chose. Tu vois?
Oui.
L'idée même d'ancestralité vient avec l'idée d'une descendance. Hein? Quand on pense aux ancêtres, on pense toujours à ceux qui étaient là avant, qui sont morts, qui ne sont plus, etc. Mais s'ils sont ancêtres, c'est parce qu'ils ont des descendants pour s'en rappeler.
Ouais.
Tu vois? Donc, leur existence a produit de la vie, déjà.
Tout à fait.
Tu vois? Elle a permis de la vie, parce que s'ils avaient renoncé, évidemment, il n'y aurait pas de descendance pour s'en rappeler. Ouais. Leur statut même d'ancêtre, et puis ça, je reviens à la citation du film un peu, tu vois, est possible parce qu'ils ont une descendance.
Absolument. C'est intéressant, là, je vais être légèrement taquin dans ma question.
Vas-y.
C'est justement, on parle beaucoup depuis le début de pays.
Oui.
On parle des rapports aux anciens.
Oui.
Comment on fait pour prendre ce lexique-là sans risquer de tomber dans le conservatisme? Ou...
Ah, oui.
Ou...
Oui.
Quel est le,
c'est le contraire du conservatisme. Mais vas-y.
Mais tu comprends où est-ce que je m'en vais par rapport à ça. Parce que c'est une question... Ou c'est quoi, je dirais peut-être... Ça, c'est vraiment baveux comme question, donc j'espère que tu sens mon clin d'œil. Ça serait quoi le conservatisme minimal? Dans le sens, quelque chose qui serait comme... le minimum, ce que je dis en blague avec mes amis, le minimum syndical. C'est-à-dire qu'on... Dans le sens qu'on peut avoir un rapport au passé. Tu sais, rapport au passé appartient pas au conservatisme, mais des fois...
Du tout, ils se sont appropriés tellement ça. Ils le font tellement mal.
Non, mais c'est ça. Des fois, je leur dis, si la question, c'est le rapport au passé, nous sommes tous, oui, conservateurs, mais ça veut rien dire d'abord.
Ça veut rien... Mais ensuite, c'est faux. C'est-à-dire qu'il faut pas leur abandonner. Moi, je suis pour ne pas abandonner les termes aux gens qui veulent les exploiter et qui se les approprient de manière malveillante.
Donc, tu comprends. Donc, justement, je suis vraiment content.
C'est le contraire du conservatisme. Voilà. Parce que pourquoi? Le conservatisme, il s'empare du passé pour prétendre que les choses peuvent être mêmes et ne pas changer et doivent se reproduire, même quand elles ne sont pas bonnes pour nous.
Ouais.
Hein? C'est le contraire de la tradition. La tradition, au contraire, attend le changement.
Ah, pour vrai?
Ben oui, bien sûr.
Non, mais j'adore ça comme idée. Donc, c'est ça, dans le fond, il n'accepte pas la dialectique. Il n'accepte pas d'avancer.
Non, parce qu'il pense que le passé est une chose figée, un objet dont ils pourront s'emparer et qu'ils pourront consommer. On est vraiment dans une marchandisation du passé. Non. Tandis que la tradition, et même quand tu as le droit de te révolter aussi vis-à-vis des ancêtres, c'est-à-dire tu peux dire « j'en ai marre ». Mais dans la tradition, premièrement, tu peux dire « j'en ai marre ». Deuxièmement, même quand tu veux être dans le respect de la tradition, c'est comme pour le conte, hein, si tu te penses au conte traditionnel, le conte oral.
Oui.
C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un nouveau narrateur, le conte change légèrement.
Ouais.
Et la tradition, non seulement le permet, mais le valorise. En fait, tu es un bon conteur quand tu sais mettre des éléments du présent à un récit très ancien pour le rendre actuel aujourd'hui.
C'est
un bon conteur. Ce n'est pas celui qui récite ou qui mémorise et qui récite. C'est celui qui tisse son récit de manière telle qu'à la fois la trame traditionnelle est respectée, mais que des éléments contextuels du présent sont ajoutés pour faire un récit qui est pertinent sur l'instant.
Est-ce que ta vision de la tradition, c'est justement quelque chose qui permet d'être... disons que c'est dans une certaine forme de conservatisme, on est respectueux à la lettre du texte. Et ouais. Disons que toi, j'ai l'impression que la tradition à la lettre et à l'esprit du texte.
Surtout à l'esprit.
Voilà.
La lettre pourrait être complètement différente, que ce ne serait pas très grave si l'esprit est respecté.
C'est ça, donc c'est pour ça que toi, tu peux être révolté vis-à-vis le passé.
Mais oui, tu peux leur dire, à la fin, vous m'emmerdez. Et puis, peut-être vous n'aviez pas raison surtout.
Oui.
Et puis, en fait, j'honore même votre... si je prends... Et puis, il y a toujours... tu sais que je parle vis-à-vis d'Haïti. Hein, donc,
oui.
Si je prends le principe que vous vouliez la liberté, eh bien, moi, je vais aller encore plus loin dans la liberté.
Oui.
Et donc, en me révoltant même contre certains aspects transmis... Je suis encore plus vous que même vous ne pouviez l'imaginer.
Donc oui, c'est ça. Donc la liberté, c'est un esprit à porter.
Sa liberté, c'est jamais fini. Hein.
Non. Ah, mais
c'est toujours urgent et c'est jamais fini.
Oui, c'est ça. C'est toujours à conquérir et à défendre la
toujours,
foi.
Toujours, toujours.
C'est merveilleux. Ouais, ouais. C'est ce qui est beau et triste à la fois.
C'est la vie.
J'adore. Est-ce que c'est ce qui fait que justement le passé dans ce livre, et quand on parle avec toi, n'est pas lourd à porter?
Mais non.
Parce que, dans le fond, on sent que tu portes la mémoire des Noirs en Amérique du Nord.
Oui, et parfois, c'est lourd.
Oui, mais parfois, ça ne l'est pas.
Bien sûr.
Est-ce que c'est ça qui permet justement de garder une espèce de légèreté, justement, cet esprit-là d'être plus proche de l'esprit que peut-être la lettre, justement?
Oui, tout à fait, oui, bien sûr.
Donc, c'est ça. Est-ce que... tu parles aussi dans ce livre-là, dans le fond, des coûts de nos refus.
Ah oui.
Ça, vraiment c'est beaucoup. C'est justement de ces libertés, un refus qui est souvent les libertés qu'on ne prend pas.
Oui.
C'est quoi les coûts, justement, quand on se refuse pour certaines choses? Parce que tu en parles vraiment bien dans ce livre-là.
Ben, tu vois, c'est déjà dans le titre, c'est-à-dire que... oui, ça a toujours un prix, il y a toujours un coût. Le coût peut être très important, hein. Le coût peut être définitif.
Oui,
absolument. Mais malgré tout, ce que mon histoire m'apprend, c'est que c'est toujours mieux de choisir la liberté, même quand le coût est très élevé. Oui. Et puis là, tu vois, dans ce que je dis, il y a plein de choses. J'ai écrit d'ailleurs un essai sur cette question du coût, que j'associe aussi au risque de la création. Le coût, il faut que ça coûte quelque chose. C'est un texte que j'avais écrit autour de la fameuse affaire slave, que j'avais d'ailleurs intitulé « Le prix de la liberté ». Parce qu'il y a toujours un coût. La liberté n'est pas quelque chose qu'on peut confortablement recevoir dans un grand fauteuil entre le thé et puis le crumpet. La liberté, c'est vraiment toujours quelque chose pour lequel il faut miser quelque chose de soi. Il faut toujours risquer quelque chose. Mais à la fin, il vaut mieux quand même être libre parce que c'est ça qui nous garantit notre statut d'humain.
Tu dis dans un texte qui s'appelle « Rétrécissement », tu parles de ton père. Ça m'a arraché le cœur. Je pense que n'importe qui, moi j'ai eu beaucoup de personnes qui sont décédées autour de moi dans les dernières années, dont Caroline, dont des grands-parents. Donc tu dis « La place de mon père mort s'amenuise dans le monde. Je voudrais que tout reste comme il l'a laissé. » Je me demandais candidement, comment a-t-il laissé le monde pour toi, ton père?
Oh, ouf! Ouh! Mon père, il m'a laissé...
Je pense que toutes les phrases sur nos parents commencent par « Oh, mon père! »
Ouais, c'est ça.
« Oh, ma mère! »
Je pense que l'une des choses, il a laissé beaucoup de choses, mais l'une des choses qu'il m'a laissé, c'est vraiment la volonté et la capacité de construire. Ça, c'était vraiment... On était très différents, on lui était un ingénieur, mon père. On n'est pas un artiste du tout.
Mais les deux, vous construisez.
Mais nous construisons. Oui, nous construisons, et puis nous construisons souvent, nous construisons, ils construisaient et je construis dans des espaces où nos petits édifices ne sont pas toujours attendus. Mon père était, il croyait à la capacité de façonner les choses pour qu'elles soient meilleures, vraiment.
Donc, c'est un geste que tu continues?
J'imagine que parfois, je réussis à le continuer.
Oui, en tout cas, moi, j'ai ce sentiment.
Merci beaucoup, Félix.
Est-ce qu'il y a chez toi, malgré ce sentiment-là de continuer, dans ce livre-là, par moment, mais en même temps, tu l'as un peu répondu, mais est-ce qu'on peut y retrouver un peu de nostalgie aussi?
Oui, mais je m'en suis beaucoup méfiée. Je ne voulais pas que ça tombe dans la nostalgie.
Tu ne tombes pas dans la nostalgie, mais c'est difficile de parler de nos morts.
Oui, bien sûr, bien sûr.
À un moment donné, pas se souvenir des bons moments.
Oui, c'est sûr.
Mais c'est vrai que ce n'est pas l'affect majeur.
Non, ce n'est pas l'affect majeur. Je ne voulais pas que ça devienne un peu comme ça. Mais oui, il y a des moments très nostalgiques.
Mais justement, parfois, moi, ça vient de cette page-là, tu comprends le lien avec la question.
C'est sûr. Mais plus loin, il y a des choses apparemment plus minimes, comme par exemple, il y a un texte qui s'appelle Grenade, où je décris tout simplement quelqu'un qui fait une boisson au sirop de grenade. Et pourtant, pour moi, c'est un texte très nostalgique. Parce que des fois, le passé, ce n'est pas seulement les morts, c'est aussi des gestes qui ne sont pas reproduits comme on les avait vus autrefois.
Il y avait une petite Madeleine de Proust, là, aussi.
Oui, c'est ça.
Justement, mais ça, dans la nostalgie, juste se souvenir,
que le monde... Mais les gestes nous rattachent à quelque chose. Hein?
Absolument.
Dans l'immortalité, Milan Kundera écrivait que l'histoire, finalement, peut-être que ce sont les gestes qui nous inventent pour pouvoir se continuer dans le temps.
Ah, oh, c'est beau.
Que ce ne sont pas nous qui faisons les gestes, mais
c'est
les gestes cherchent le prochain humain qui va les perpétuer.
Tu t'écris où il faudra, dans Comme si, où il faudra décider quoi mettre, quoi abattre, quoi poser, dans l'abjection d'être resté, quand tant sont anéantis.
Ouais.
Quelque chose de plus petit encore, qui ressemble à la joie.
Oui.
Quelle joie on peut retrouver dans l'anéantissement? Comment ces deux-là peuvent vivre malgré? Mais c'est ça, quel lien entretiennent ces deux? Parce que moi, j'ai trouvé ça magnifique des voir ensemble, ces mots-là.
Oui,
justement.
Parce que ce qu'on nous vend beaucoup, quand même, c'est cette notion mur à mur de la mort des personnes noires. Hein. C'est tellement présent qu'on oublie des fois de le remarquer, tu vois. Comme par exemple, et je crois que ça apparaît dans un autre poème, quand on parlait du séisme du 12 janvier, la manière dont les médias ont montré les corps à la télé. C'est comme si la mort des personnes noires est tellement banale qu'on ne remarque plus qu'il s'agirait d'une humanité à préserver, tu vois. Et quand on te propose mur à mur, finalement, l'anéantissement comme projet de ta personne, c'est assez hallucinant que tu arrives quand même à
garder le sourire et la joie.
C'est pas garder le sourire, mais à aménager, à façonner toi-même tes espaces de joie. Et ça, c'est une autre manière de réaffirmation de ton humanité.
Ah, c'est vrai, parce que dans le fond, dans garder le sourire, t'es en réaction, alors que quand t'aménages la voie, t'es en construction d'un espace.
T'es en construction d'un espace, oui.
Comment on fait?
Et puis ça, c'est beau.
Oui.
Je ne sais pas comment on y parvient, mais on y parvient siècle après siècle.
Oui, mais c'est ça qui est fascinant, je veux dire.
Ouais. Parce que l'humanité est très résistante. On n'arrive pas facilement à tuer l'humain, en fait. On a l'impression que l'humain, c'est très fragile, et puis c'est plus qu'une impression. On génocide à droite et à gauche, notamment en Palestine maintenant, mais pas que. Au Soudan aussi, et puis on génocide mais aussi plus lentement.
Le 20e siècle ne manque pas de génocide.
Oui, et puis on continue de génocider tranquillement au Canada aussi, mais beaucoup plus lentement, beaucoup plus discrètement, mais on continue quand même. mais l'humain, l'humanité, les cultures, les nations sont très résistantes et très difficiles à tuer, ça c'est sûr.
Donc, cette notion-là de joie, en tout cas, je trouve fascinant. Puis en même temps, j'ai l'impression, là, on parlait que la nostalgie n'était pas l'affect principal, j'ai l'impression que la joie en fait partie, par exemple, de ce livre-là.
Ah, oui, la joie fait partie de ce livre, ça c'est sûr.
Absolument.
C'est sûr. Surtout que ça se termine par deux sections pour moi très importantes qui s'appellent La vie pour la vie.
Oui, exactement.
Et puis qui s'appelle La veillée. La veillée.
Parce que j'ai jamais pensé, quand j'ai vu le titre.
Oui, qu'il y aurait une section La vie pour la vie.
Non, mais finir le livre en souriant.
Ah, ben oui, pourquoi?
Mais tu vois, ça, c'est moi qui est très.
Oui.
C'est mes coordonnées sociales qui parlent peut-être.
Oui.
Mais justement, j'ai fini ce livre-là en grande joie.
Ah, tant mieux, je suis contente.
Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas finir sur la nostalgie de notre entretien, parce que je ne veux pas laisser cette question-là.
Je veux mentionner quelque chose aussi sur les entretiens, parce que tu sais, c'est une démarche que j'ai quand même déployée, non seulement dans l'écriture poétique, mais dans une vraie démarche de recherche-création, par exemple, pour écrire ce livre, j'ai choisi de faire des entretiens avec des poètes. J'ai fait plusieurs entretiens longs avec plusieurs poètes pour chaque fois leur poser la question de la mort dans leur écriture. Et parfois, ils ne se rendaient pas compte que la mort était présente et donc ça faisait des discussions intéressantes. Mais j'ai aussi écrit ce livre en écho des entretiens que j'ai eus avec tous ces poètes. Et donc, des fois, ils sont très présents.
Qu'est-ce qui, justement, dans la voix de ces poètes-là, tu voulais mettre en lumière?
Je voulais être en conversation avec eux. Et je voulais que des traces de cette conversation apparaissent dans le livre sans qu'on sache toujours qui, ni comment, ni pourquoi.
Donc, dans le fond, il y a du Stéphane Martelly et il y a des traces de plein de poètes.
Mais comme tu peux finir par constater, même si la poésie est soi-disant un art de l'individu, moi, je crée toujours avec, en fait. Et cette fois-ci, j'écris aussi en discutant avec des poètes. Et ce n'était pas que des entretiens où je leur posais des questions sur leur œuvre, c'était des entretiens où moi aussi, j'essayais de répondre aux questions que je leur posais avec eux. Donc, il y a très peu de citations directes de ces entretiens. Il y en a deux ou trois, pas beaucoup. Mais il y a surtout le souvenir de ces conversations ce livre.
Donc, dans le fond, c'est un collectif.
C'est
un travail collectif.
C'est un travail collectif qui a conduit à une œuvre singulière. Mais tu vois, je les remercie à la fin.
Oui, absolument. Donc, je suis content. C'était ma dernière question, justement, sur le rapport. Oh, ça va me permettre de finir un peu ailleurs.
Oh, vas-y.
Dans un texte qui s'appelle « Prière », les deux premières phrases m'ont bouleversé. C'est « J'aimerais retrouver le ton de mes prières ».
Oui.
Qu'est-ce que tu aimerais retrouver dans ce ton-là? C'est bouleversant comme phrase. Parce que c'est pas le contenu,
c'est pas les mots,
c'est le ton.
C'est le ton. Oui. C'est presque l'émotion qu'on pouvait ressentir. Et puis, qu'il y a peut-être une émotion finalement très analogue pour moi à l'écriture de la poésie, puisque je suis devenue un peu athée, même si je n'en ai pas l'air du tout. C'est l'idée que lancer des mots vers l'univers puisse produire un effet sur le monde. Et tu vois, c'est la même chose pour la poésie.
Oui, peut-être que la littérature a ça de rapport avec la religion, c'est la force du verbe.
Oui, c'est presque une pensée magique que de croire que si tu mets les mots dans le bon ordre, quelque chose du monde sera différent. Peut-être de manière très petite, mais quand même.
En tout cas, moi, je dois te dire, Stéphane, je sors différent de cet entretien avec toi. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps et vraiment, je le dis à nos auditeurs, Mourir est beau, c'est un magnifique recueil que j'espère que nous serons nombreux à lire.
Je te remercie vraiment.
Merci Stéphane. Je tiens à remercier Stéphane Martelly pour ce très très bel entretien. Si vous voulez lire un de ses livres, je vous conseille Mourir est beau aux éditions du Norrois. Je tiens à remercier surtout toute l'équipe de CFAK pour le soutien technique et logistique de cette émission. On se rencontre le mois prochain.